et à tous. Bienvenue sur Radio Aligre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania, comme tous les samedis de 18h à 19h. Lusitania est une émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle liée à la lusophonie. Au micro, Marlène, à la technique, Armand Goury. Aujourd'hui, nous avons ici au studio Wilson Lavelle. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Glaçon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes aujourd'hui sur Lusitania pour nous parler du premier festival de cinéma portugais qui s'intitule Olá Paris et qui se déroule du 29 novembre au 1er décembre au Club de l'Étoile à Paris. Mais ces trois jours, sept films, des rencontres, des débats, des dédicaces, une exposition. Mais avant de vous présenter, de parler un petit peu avec vous, j'ai au téléphone normalement Margarida Cardoso qui fait l'ouverture du festival Olá Paris en présentant en avant-première son film Banzo. Margarida Cardoso?
Oui, c'est moi.
Oui, vous m'écoutez?
Oui, je vous écoute.
Oui. Bonjour, donc Margarida Cardoso, vous êtes née au Portugal, mais vous avez passé votre enfance au Mozambique. Et vous avez réalisé, et vous réalisez, vous écrivez vos propres films depuis 1995, explorant des sujets liés à des expériences personnelles et à des questions marquantes de l'histoire portugaise, la guerre coloniale en Afrique, la révolution portugaise et la période post-colonialisme qui vous sont chères comme idée. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont Natal 71, Noël 71, Kucha Kanema, et aussi des longs-métrages, Les rivages des murmures et Yvonne Kahn, pour ne les nommer que les plus connus. Ils se rapportent tous à cette expérience de l'Afrique portugaise, coloniale et postcoloniale. Ces films ont été projetés et primés dans plusieurs festivals. Et après, Margarida Cardoso, cette petite, très courte présentation, parce qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, je voulais vous demander de vous présenter votre film Banzo, qui se déroule à Saint-Thomé et Príncipe et qui est en ouverture de ce premier festival de cinéma portugais qui s'appelle Olá Paris. Donc, allô, Margarida?
Oui,
voilà. Vous pouvez nous parler donc un petit peu de ce film qui s'appelle Banzo et qui se déroule à Saint-Thomé et Príncipe.
Oui, bonjour d'abord et merci de m'avoir. Donc, Banzo, c'est un film qui a ses débuts parce que j'avais fait avant un documentaire qui se passait à Saint-Thomé. Et là, j'ai rencontré toutes ces ruines des anciennes plantations de cacao. Et c'était une page très noire de l'histoire portugaise, donc parce que il avait tous les gens qui travaillaient dessus, c'était des esclaves. Même après la fin de l'esclavage, soi-disant officiellement, on continuait à utiliser des mains d'œuvre des gens qui avaient des contrats, mais qui ne savaient pas que c'était des gens complètement sans droit. Et là, j'étais tellement impressionnée avec toutes ces ruines et la présence qui on disait que on paraissait que le passé n'avait pas en fait passé. Donc, j'ai écrit Banzo, que c'est l'histoire d'un médecin qui arrive dans ces îles de Saint-Thomé, des îles tropicales dans le golfe de Guinée, et qui est un médecin, jeune médecin, qui rencontre dans une plantation de cacao un groupe de gens, des serviceaux, je ne sais pas si en français on dit comme ça, mais des travailleurs qui venaient d'Afrique, qui souffrent entre parenthèses, d'une maladie qui au moment s'appelait nostalgie et aussi on l'appelait banzo, que c'est les gens qui voulaient mourir en fait. Et donc le film, c'est cette histoire de cet médecin qui rencontre cette réalité et qui, à travers de la tentative de faire quelque chose pendant devant un problème comme ça, il rencontre aussi tout ce que c'est l'étonnement, je ne sais pas si on dit, donc les gens, les colonialistes, les colonisateurs, très étonnés avec l'agence que ces gens qui venaient d'Afrique, les personnes esclavisées, avaient sur sa propre vie. Et donc, ça, le film, c'est tout autour de ça. C'est la rencontre de ces gens, ils existent comme êtres humains.
Et Margarida Cardoso, je voulais vous poser une question. Pourquoi, c'est quoi ce titre Benzo? Et qu'est-ce qu'il évoque? Quelle est sa signification?
Benzo, en fait, c'était un mot qui s'utilisait pour cette maladie. Ça veut dire que pendant le temps officiel de l'esclavage au Brésil, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Afrique pour travailler au Brésil. Et en arrivant là, ils souffraient de saudades, de homesickness, de comment ça se dit en français. Ils voulaient retourner chez eux. Ils tombaient dans une dépression profonde et ces dépressions faisaient que les gens voulaient se suicider. Et ce mot « banzo », on ne sait pas la genèse de ce mot, mais on dit que ça vient du mot « mbanza », que c'est d'une langue d'Angola. Et « mbanza », ça veut dire « maison »,« maison », comme la maison de famille, si on peut dire.
Et ça vient de quelle langue?
Ça vient de Kimbundu.
Qui vient d'Angola, Mozambique?
Angola, oui, oui. Angola.
Vous pouvez parler un peu plus fort?
Angola, ça vient d'Angola.
Angola, d'accord. Ouais. Et dites-moi un petit peu, cet film, est-ce qu'il s'inspire, il vous a été inspiré par des faits réels?
J'ai lu beaucoup de choses sur les j'ai lu beaucoup de relatoires des médecins à l'époque qui étaient sur des plantations de cacao dans les îles de Saint-Thomé. Et donc, je me suis inspirée par tout ce que j'ai fait comme investigation, tout ce que j'ai lu dans les archives et tout ça. Donc, ce ne sont pas des histoires. C'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré dans des vivants et des événements vrais.
Alors, Margarida Cardoso, je vais passer un petit extrait de la bande-annonce de votre film. Ça dure à peine 53 secondes, mais ça va donner à nos auditeurs une idée. Petite idée, bien sûr, de votre film qui va être en avant-première, donc à ce festival Hola Paris. On va l'écouter tout de suite.
Estão todas prontas? Trabalhar. A fingir que trabalham.
O mal não se deixa fotografar facilmente. Temos de dar uma ajuda.
Porque choro. Porque canto, não posso nem sei dizer. Canto para não chorar, canto para não morrer. Sou triste, todos o dizem, mas ninguém sabe a razão.
Donc, on vient d'écouter cette petite extrait donc de votre film Benzo. Margarida Cardoso, pour finir notre entretien qui est très court, je suis d'accord, mais bon, au téléphone, j'espère qu'on vous verra un petit peu plus sur Paris et puis qu'un de ces jours, vous pourrez nous en parler un peu plus. Sur ce film qui sera en avant-première. C'est le film d'ouverture du festival Hola Paris qui se déroule donc du 29 novembre au 1er décembre au Club de l'Étoile à Paris. Et je voulais finir notre entretien en vous demandant quels sont vos projets de films ou autres.
Oui, mes projets maintenant, c'est, je suis toujours un petit peu la même ligne de la recherche de ces temps coloniaux et de ce colonialisme portugais. Donc, j'ai un projet de documentaire qui se passe tout autour de l'importation d'un éléphant pour le zoo de Lisbonne avec son entraîneur, je ne sais pas comment dire, la personne qui vient avec lui. Je suis en train de faire un documentaire sur ça et je suis aussi en train d'écrire un film de fiction, un long métrage fiction qui aussi parle un peu, ça se passe aujourd'hui au Portugal et c'est lié un petit peu à les histoires des restitutions aussi, des objets aux colonies. C'est un film de fiction, mais ça, les histoires sont autour de cette idée de restitution.
Mais écoutez, merci beaucoup, Margarida Cardoso.
Merci.
Je rappelle encore une fois que vous êtes la cinéaste invitée du premier festival de cinéma portugais qui s'appelle All Paris. Un grand merci d'avoir été avec nous au téléphone.
Merci, moi.
Je sais que vous êtes très, très occupée, mais grand merci pour avoir eu nous donner cette petite opportunité de parler avec vous de votre film.
De rien et merci, moi.
Merci, merci.
À la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Alors, on continue ici à l'antenne, en direct. On a avec nous Wilson Ladeiro. Bonjour.
Bonjour.
Et Glaçon. Bonjour, oui. Glaçon.
Bonjour.
Donc, Wilson Ladeiro, il est directeur et programmateur du festival. Et Glaçon, il est artiste, comment on peut appeler, strip art, graffeur
Comme bon vous semble. C'est à vous de choisir. Sincèrement, j'accepte tout. Vous avez même le droit d'appeler par mon prénom, si vous voulez, parce que je m'appelle Brian. Donc, Glaçon, c'est flatteur, mais si vous souhaitez m'appeler par mon prénom...
C'est votre nom d'artiste, on va
tout
dire.
Tout à fait. Bah oui, on peut dire artiste. Ouais. Moi, je trouve que ça correspond assez à, en tout cas au projet par rapport au festival, vu qu'il va y avoir une exposition lors de ce festival, lors des 3 jours. Donc je pense que artiste, ça peut être le bon mot. Ouais.
Alors, je reviens vers Wilson Ladeiro, qui est le directeur et le programmateur de ce festival. Et je voulais vous demander de nous parler un petit peu de vous, de vous présenter.
D'accord, de me présenter. Alors moi
oui,
déjà,
si c'est possible.
Oui, c'est possible. Ça va pas être spécialement long, hein, car j'ai pas non plus un CV.
Aussi quand même. Hein.
Bon, je commencerai par dire que moi, mon nom d'artiste, c'est Wilson, en fait, c'est mon prénom.
Ladeiro.
Ladeiro, c'est mon nom de famille, mon nom d'artiste, c'est Wilson. J'ai trouvé que mon prénom comme nom d'artiste, mais c'est déjà pas mal, il y a pire. Non, en fait, moi, mon parcours, il est pas dans le cinéma, en fait. Il n'est pas vraiment dans le cinéma, sauf intellectuellement, puisque j'aime le cinéma depuis ma plus tendre enfance, d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours aimé le cinéma de tous les pays, d'ailleurs, avec un attachement particulier, bien sûr, au Portugal, puisque je suis d'origine portugaise. Je suis né en France, mais je suis de parents portugais, donc j'ai toujours eu cette double culture en moi. Mais mon parcours, moi, il est à la télévision, en fait. Je travaille depuis maintenant presque 30 ans à la télévision, voilà, sur les plateaux de télévision, à la caméra. J'ai réalisé plusieurs documentaires sur de divers sujets, quand même souvent, très souvent liés à la culture. Voilà, et puis bah là, en fait, c'est ma véritable première expérience, on va dire, dans le monde du cinéma, hein, même si je ne fais pas un film, mais j'en présente plusieurs. Donc voilà, ça c'est une idée en fait qui était dans ma tête depuis un petit bout de temps. Et puis à force de voir des films portugais au cinéma et de me dire à chaque fois qu'ils sont bien, je me suis dit qu'à un moment il fallait...
Les mettre un peu en exergue.
Oui, les montrer un peu plus parce qu'ils n'ont pas une visibilité énorme, même si à Paris, c'est quand même une ville de cinéma où il passe quand même pas mal de cinéma du monde. Mais c'est vrai que les films portugais, c'est quand même assez limité. Et l'idée, c'était d'élargir un peu l'offre. Parce que le cinéma portugais, il est bien sûr, je trouve le cinéma actuel, il est très, très, très intéressant. Il est de grande qualité. Vraiment, il est à montrer dans tout son espace, je trouve.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc faire un petit peu la promotion de ce cinéma portugais qui est un peu moins connu ici à Paris et en France d'une manière générale.
Oui, il est un peu moins connu. Oui, forcément, il est un peu moins connu, le cinéma portugais, que d'autres cinémas. Je pense par exemple au cinéma italien, espagnol, anglais, je ne sais pas ce qui, avec le cinéma français bien sûr, ce qu'on voit souvent. Mais le cinéma portugais, franchement, il y a un public quand même pour le cinéma portugais. Il y a des professionnels qui en parlent, des gens qui l'aiment, qui le critique en bien, mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire connaître un cinéma qui le mérite et qui a vraiment un style, je trouve, qui n'est pas académique, qui n'est pas toujours académique, qui n'est pas stéréotypé du tout. Et je trouve, moi, vraiment que cette génération là, celle d'aujourd'hui, hein, elle a un style, elle est plus qu'intéressante, et vraiment je trouve que c'est un cinéma qu'on doit mettre en avant. Un cinéma très moderne.
Oui, parce que dans les films portugais, vous avez bien sûr des films d'action, des documentaires, des films d'animation. Donc c'est très diversifié et très moderne, je dirais.
Tout à fait. C'est vraiment très important ce que vous venez de dire, parce que ce n'est pas seulement un style avec un certain style de film. Le film portugais, c'est ça. Ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est très varié. Il y a des réalisateurs très, très, très différents les uns des autres. Je pense par exemple à deux des plus connus, qui sont Miguel Gomes et João Pedro Rodrigues, qui font deux cinémas radicalement différents, mais les deux sont extraordinaires dans leur style. Et tous les deux racontent, je trouve, très bien la société portugaise, chacun à sa façon. Voilà.
Oui.
Et c'est valable pour plein d'autres réalisateurs. Je pense aussi à Margarida Cardoso, qu'on vient d'avoir au téléphone, qui fait aussi un cinéma extraordinaire.
Oui. Étonnant.
Tout à fait. Et à plein d'autres. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que vous parliez justement de l'animation, des documentaires. Ils sont très, très, très doués aussi là-dedans, les jeunes et les moins jeunes, mais enfin ceux qui travaillent en ce moment et qui font le cinéma portugais. Il y a un cinéma d'animation qui est de grande qualité. D'ailleurs, la preuve, au dernier festival d'Annecy, le Grand Prix a été décerné à un court-métrage d'animation portugais. Je trouve que le cinéma portugais vaut vraiment le coup d'être connu pour ça, pour son
intégralité.
Ouais, son intégralité, parce que voilà, c'est ça. Ils font des très très bons courts métrages aussi, des documentaires. On l'a dit. Enfin, c'est vraiment très très varié et très de grande qualité, je trouve.
Alors, Wilson Ladeiro, donc directeur et programmateur du festival, comment on organise un premier festival, parce que c'est le premier festival de cinéma portugais à Paris, bien sûr. Comment on se débrouille, on va dire comme ça, pour la programmation, les acteurs, les réalisateurs, etc., etc.
Bah, disons que à partir...
Convaincre tout ce petit monde.
Oui, c'est ça. Oui. À partir du moment où ça a commencé à trotter dans ma tête l'histoire de montrer le cinéma portugais plus qu'il ne l'est actuellement en France, et notamment à Paris, puisque je vis à Paris, l'idée, ça a été tout de suite de regarder si ça existait. Eh ben non. J'ai constaté qu'il n'existait pas, à ma grande surprise, de festival qui n'a jamais existé de festival de cinéma portugais en France, ce qui m'a étonné. Très vite, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait peut-être le créer, tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on part de ce principe, qu'on se dit tu vas créer un festival de cinéma portugais. Moi, je savais ce que je voulais montrer, je savais où je voulais aller. Après, il reste, comme vous dites, à convaincre les gens, convaincre tout ce petit monde, c'est-à-dire les artistes à venir, parce que c'est un peu dans l'ADN de ce festival, c'est de faire venir les
rencontres,
les cinéastes, faire des rencontres, et pas seulement passer les films, quoi. Il faudrait quelque chose de plus, et en plus des activités un peu annexes, comme celle de Glaçon, par exemple, qui est avec nous aujourd'hui. Mais ensuite, pour commencer à mettre en place le festival, il faut trouver des partenaires. Donc les partenaires, on a la chance d'avoir la Fondation Gulbenkian avec nous et la Caixa Geral de Depósitos, qui sont nos deux plus gros partenaires. Et puis on en a d'autres, hein, je vais les citer, la Librairie Portugaise et Brésilienne, le Club de l'Étoile, donc le cinéma où a lieu le festival, la Manteigarilla, Cap Magellan, bien sûr, incontournable Cap Magellan. Et Caminhos do Cinema Português aussi, qui est le festival qui a lieu à Coimbra tous les ans, juste un peu avant le Festival de la Paris d'ailleurs, et qui est un peu le festival au Portugal qui vraiment, c'est le festival du cinéma portugais. Il est dédié au cinéma portugais. Il n'y a quasiment que des films portugais qui passent. Donc, il y a à peu près toute la production du cinéma portugais. Long métrage, court métrage, animation, documentaire, tout. Donc, ils sont partenaires aussi. Et en partenaire médiatique, nous avons les Inrock et Tsugi Radio.
Super. Avec nous. Et puis Radio Aligre.
Radio Aligre, bien sûr.
Donc, on va passer d'abord une petite musique que je voudrais faire connaître. Elle est assez connue au Portugal. Elle est connue au Portugal, mais elle sort ici en France son premier CD qui s'appelle Ponta Solta de Fábia Rebordão. Et les morceaux qu'on va écouter, c'est Café Camareiras, et puis après on continue avec Wilson Ladeiro et Glaçon.
Vou fazer a descrição de um café de camareiras que havia na moraria. Lembrar tempos que lá vão. Algos e rameiras e cenas de valentia. Os fadistas são atores, o cenário é relé. Com isso ninguém se ilude. Nós somos os espectadores. O teatro é o café do cantinho da saúde. É bom que ninguém se afoite. Vão dar-se cenas canalhas nesses antros de má fé. Feram 10 horas da noite. Entrou os gás navalhas pelas portas do café. O pinóia da guitarra, fadista bem conhecido, parou de cantar o fado. Há burburinho, algazarra e um fidalgo destemido negou-se a ser apalpado. O fiasco. Camareira esperta chegou-se com ligeireza. À beira do rufião, sacando a navalha aberta que este espetar na mesa. Depois da rusga a balar, entraram muitas rameiras. Há movimento, alegria. Há fadistas a cantar várias cenas sordeiras. Era assim na moraria. Há fadistas a cantar várias cenas sordeiras. Era assim na moraria.
E vous venez d'écouter Café de Camareiras de Fábia Rebordão, extrait de son album Pontas Soltas. Et vous êtes bien sûr sous l'émission Lusitania avec Wilson Ladeiras et Glaçon pour nous parler du premier festival de cinéma portugais qui s'appelle Hola Paris et qui se déroulera le mois prochain. Donc, Wilson, on a parlé un petit peu de la programmation, mais comment vous avez fait les choix des films? Parce que le cinéma portugais, je ne dirais pas qu'il est énorme, mais il a un certain choix. Comment on fait les choix de ces films? Pourquoi celui-là et pas celui-ci? Et quelle a été la thématique cette première année?
Le choix, en fait, il s'est fait déjà sur la génération, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai axé ça, parce que le cinéma portugais, il a une histoire quand même qui dure depuis quelques décennies. Bien sûr, quand on parle cinéma portugais, on pense beaucoup à Manuel de Oliveira,
oui,
bien
c'est sûr, là on peut et à d'autres. La forêt. Hein,
tout à fait. Donc, mais vraiment, l'idée, c'était de focaliser la programmation sur les cinéastes actuels, que ce soit des très jeunes ou des un peu plus âgés, mais ceux qui font du cinéma actuellement, on va dire de ces dernières années, quoi, le cinéma qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, par rapport à ça, c'est la première année, cette première édition, le but n'était pas de faire un cinéma avec une compétition, avec un jury, des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment la première édition, c'était l'idée, c'était de présenter ce qui, à notre sens, est ce qui se fait de mieux au Portugal ces dernières années. Alors, on n'a pas 50 films non plus, j'aurais bien voulu pouvoir en mettre 50. Il n'y en a que quelques-uns, mais voilà, les quatre qui sont présentés dans cette sélection le samedi 30 novembre sont pour moi des films marquants, vraiment, du cinéma portugais et qui ont des, on va dire, qui sont quand même assez différents dans la façon dont ils sont réalisés et dont ils sont mis en scène, et même par rapport à ce qu'ils racontent. On parle précisément des films
on peut commencer à parler. Mais avant cela, je voudrais quand même rappeler qui est la marraine du festival.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Et ça, après, on passera au film, parce qu'elle présente aussi un film.
On aurait pu commencer par là, même. La marraine du festival est celle à laquelle on a pensé en premier. Et on s'est dit, ça serait super si c'était elle, parce qu'il n'y a pas plus franco-portugais que elle, c'est Maria de Medeiros. Et quand on est allé la voir, qu'on lui a posé la question, tout de suite, elle a dit un grand oui, en fait. Alors, ça a été un grand bonheur pour nous, parce que c'est pas anodin pour elle de faire ça à Paris, en fait. Elle vit à Paris, elle a un attachement très particulier à Paris. Donc, elle l'a dit elle-même, hein, c'est pas moi qui lui prend ses mots, hein. Mais elle l'a dit elle-même qu'elle avait un attachement tout particulier à Paris et que c'était quand même exceptionnel d'être la marraine d'un festival portugais à Paris. Voilà. Et nous, forcément, on est très heureux puisque c'était notre choix d'entrée. Elle a accepté tout de suite, donc on est vraiment ravis. Et pour nous, c'était pas anodin du tout non plus que le festival se passe en France, parce que Portugal et France sont quand même deux pays qui sont, on va dire, qui ont un lien d'amitié depuis maintenant plus de 60 ans.
Ah, mais même plus, si on parle de nos écrivains.
Tout à fait.
Qui ont vécu ici à Paris et qui ont beaucoup travaillé
bien
ici.
Bien sûr, je parlais plus
du cinéma.
Du cinéma et puis de la vague d'immigration qui a commencé dans les années 60 et qui a emmené plein de Portugais dans le pays. Donc ça a créé vraiment des liens forts. Et puis c'est vrai que moi, j'en suis un peu la preuve. Hein. Je suis issu de l'immigration. Moi, je suis de la deuxième génération et je me sens français et je me sens portugais. Je me sens pas plus français ou plus portugais. Je me sens vraiment des deux cultures. Donc ça aussi, c'était pas anodin pour nous au départ, quoi. Qu'un festival de cinéma portugais ait lieu en France, voilà. Avec une marraine qui, pour le coup, représente extrêmement bien les deux pays.
Aussi.
Voilà, franco-portugaise.
Surtout que Maria Madel, elle est très occupée tout le temps. Et d'ailleurs, je rappelle qu'elle sera au Théâtre de la Ville du 5 au 16 novembre avec une création de Robert Wilson,
tout
par
à fait.
Exemple.
Ouais. Oui, elle est très, 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 très occupée. Elle tourne un film aussi. Elle écrit un film. Elle écrit son troisième long métrage. Enfin, bon, entre le théâtre, la musique.
Elle a trois CD, si je ne me trompe pas.
Elle a fait trois CD, oui, c'est ça. Elle a fait trois CD déjà. Et puis, donc voilà, on est ravis qu'elle ait trouvé une fenêtre pour être présente avec nous au festival. Elle sera présente à la soirée d'ouverture, donc le vendredi 29 novembre. Pour lancer le festival avant justement la projection de Banzo. Ensuite, il y aura une petite réception. Et puis, elle sera présente le dimanche également, le dernier jour du festival, pour présenter son film Capitaine d'Avril, qui est un peu le film phare du 25 avril. Et elle le présentera donc le dimanche en une séance commune avec Ginette Lavigne, qui présentera, elle, son documentaire qui s'appelle « La nuit du coup d'État ». Qui raconte, en fait, c'est Otelo de Carvalho, celui qui a qui a initié, qui a tout mis en place pour le coup d'État, qui raconte en fait aux téléspectateurs dans un dispositif de mise en scène assez original, où il s'adresse à la caméra, en fait, aux gens, et il explique absolument tout du coup d'État. Le déroulement, comment tout a été organisé. Et le film de Maria, lui, montre vraiment... Par contre, là, on est au milieu de Salgueiro Maia et de ses soldats. Et là, on a en fait toute l'illustration de ce que raconte Othello. Donc je trouvais que les deux films se répondaient vraiment très, très bien, de façon très intéressante. Et on va faire un débat à l'issue de ces deux. On va projeter les deux films à la suite. Et ensuite, il y aura un débat animé par Véronique Mortaigne, journaliste spécialisée dans la lusophonie, le Brésil, le Portugal, enfin qui travaille depuis très longtemps, oui. Qui a travaillé au Monde, qui écrit des bouquins et tout. Donc il y aura un débat qui sera modéré par Véronique à la fin, qui mettra un peu en comparaison ces deux films avec les deux réalisatrices, Ginette Lavigne et Maria de Medeiros. Voilà, ça ce sera le dimanche après-midi.
Aligre FM 93.1.
On va parler des autres films qui vont être présentés. Parce que si je ne me trompe pas, il y a 7 films quand même.
Il y a 7 films en tout, oui. Il y en a 4 le samedi. Alors les 4 films du samedi, ce sera le samedi matin, Alma Vive, de Christelle Alves Meira, qui est sorti, je crois, en 2022.
Qui est sorti ici en France,
je crois. Est sorti en France, oui.
En 2023.
Ou peut-être en 2023.
Parce nous, on avait fait... Enfin, c'était ma collègue Marina qui avait fait une émission avec elle en avril 2023.
Peut-être, oui. Enfin, il est récent.
Oui.
Et donc, il y aura Christelle qui sera présente avec sa fille Loua, qui a le premier rôle du film, ainsi que Jacqueline Corrado, qui joue la maman de la fille dans le film. Donc, toutes les trois sont présentes après le film pour discuter, échanger avec le public et pour présenter le film. Donc, ça, c'est le premier film, Alma Vive, qui, pour moi, est quand même un film superbe.
Il est magnifique. Ça se passe dans le nord du Portugal. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment le Portugal profond, quoi. On a tous... enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous deux, mais... moi, j'ai un peu vécu ça, quoi, dans les villages.
Tout à fait.
Ces histoires, des sorcelleries.
Glaçon, par exemple, je crois qu'il est du nord du Portugal aussi, donc ça doit lui parler, lui.
Tout à fait. Moi, la photographie du film, ça m'a parlé. J'étais au cinéma à Paris, donc j'ai vu le film à Paris. Et pourtant, pendant une heure et demie, j'ai voyagé... à travers le nord du Portugal, je dirais même à Trás-os-Montes. voilà, ça. Donc non, pour moi, j'ai retrouvé complètement, en fait, nos montagnes, nos prairies, nos petites maisons. Et oui, clairement, c'est...
Et puis toutes ces croyances.
Complètement.
Toutes les croyances qui existent et qui sont autour de ça.
Mais ce que je trouve superbe dans ce film, moi, et là où elle a vraiment réussi un coup de maître, c'est que le film, il est quand même... populaire au sens, il s'adresse à un public très large, c'est un film, c'est un film grand public, mais c'est, en même temps, c'est une vision d'auteur, c'est un très bien filmé, très bien éclairé, c'est un film très maîtrisé au niveau de la mise en scène.
Donc, c'est ce qui m'a marqué, ouais.
C'est vrai. Mm. Donc elle a vraiment réussi un coup de maître, c'est son premier long métrage en plus, donc je crois que Christelle a fait très fort. On attend avec impatience son deuxième film qu'elle est en train d'écrire en ce moment.
On a beaucoup aimé l'année dernière son film. Ouais. Oui, c'est vrai.
Donc, hâte de le revoir. Ouais.
Hâte de le revoir, tout à fait. Ça sera avec grand plaisir. Ensuite, nous avons le film Amasan, qui est un documentaire de Claudia Verejão, qui, alors elle, j'adore aussi ce qu'elle fait. Elle est photographe à la base, donc déjà son image, elle est assez dingue. Elle a un cinéma très posé, très beau. Et ce documentaire, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il se passe au Japon. Avec des actrices, donc, enfin actrices, japonaises, c'est un documentaire, donc, avec des japonaises. Donc il n'y a pas de portugais dans ce film, à part la réalisatrice bien sûr, et peut-être quelques membres de l'équipe. Mais je trouve que c'est un film portugais, vraiment, dans son rythme, dans sa teneur, dans son ambiance, vraiment à croire qu'entre le Japon et le Portugal, finalement, il doit y avoir... Beaucoup de parallèles
entre le Japon et le Portugal.
Déjà, historiquement, oui.
Déjà, les Portugais ont été les premiers à y arriver. Et quand vous allez au Japon, vous avez plein de plats qui sont d'origine portugaise, notamment les petites fritures, les gâteaux. Il y a plein de choses qui ont un rapport avec le Portugal, même si c'est ancien.
Puis rien que le merci.
Oui.
Comment est-ce qu'on dit merci en japonais? Comment est-ce qu'on dit merci en portugais?
Tout à fait, ça se ressemble.
Il y a un lien quand même.
Ouais. Et puis cette mélancolie.
Oui.
Oui.
Cette aussi. Mélancolie. Hein,
la mer.
La mer, bien sûr. Oui, un pays entouré de mer, un autre presque entouré de mer.
Et non, ces femmes fortes. qui sont
oui,
qui, tout à fait. Qui vont à la pêche et qui au Portugal aussi, les femmes des pêcheurs qui sont, c'est elles qui tiennent un peu tout. Quoi.
Et c'est une très très vieille tradition au Japon qui dure depuis 2000 ans, je crois. C'est ces femmes qui ont quand même entre 50 et 70 ans, donc c'est pas des petites jeunes qui vont pêcher, qui plongent en apnée, qui vont chercher des coquillages qu'elles revendent en plus ensuite dans des marchés. Quoi. Et c'est vraiment un très 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 beau documentaire.
Alors, moi, je voulais faire un petit clin d'œil à cet film, je ne dirais pas japonisant, parce que ce n'est pas le terme que j'utiliserais, mais fait au Japon, avec une musique, qui elle vient du Japon directement. C'est Meiko Kaji. Je vais le prononcer évidemment mal.
On vous excusera.
Je ne parle pas le japonais. Il s'appelle Omna. Aguru Uta, donc de front Ajiki Uta. Donc c'est une musique de 1973. On va l'écouter et après on continue avec les déroulements du festival.
私はただ女そうよあなたはただ男名前を聞いて何になる身の上聞いて何になる好きも嫌いも嘘次第折れた男の言うがままそこから先は女なら自分の胸にあ聞けという
Voilà, on a écouté donc un petit extrait d'une musique japonaise de 1973 de Meiko Kaji. Et comme d'habitude, je le prononcerai mal. Ona Aguru ou Agure Uta. Voilà. Désolée pour les Japonais s'ils m'écoutent. Alors, on est avec Wilson, oui, pour le Festival de cinéma portugais. À part ce film Amasan de Claudia Varijão, il y a d'autres films aussi.
Oui, alors il y a ensuite, à 17h, on aura Trace. Ça, c'est le titre français. Le film, c'est Restos do Vento. De Tiago Guedes, qui est un film superbe aussi, très très maîtrisé, et qui raconte en fait une histoire qui s'est passée suite à une vieille tradition portugaise, une fois de plus dans le nord du Portugal, du côté de Trás os Montes, je crois, que ça se passe par là-bas
avec
encore.
Avec os mascarados.
Tout à fait, avec ces jeunes masqués qui, au cours d'une soirée, pouvaient un peu embêter... les filles comme ça, masquées pour ne pas être reconnues. Et malheureusement, ça donnait lieu parfois à des débordements. Voilà. Et puis ensuite, on retrouve les personnages de ce village 20 ou 30 ans après. Et avec toujours ce truc de cette tradition un peu en arrière-pensée. Et c'est vraiment un film magnifique avec un casting incroyable. Il y a Alban Geronimo, il y a Nun Lopes, il y a Isabelle Abreu, il y a
Jean-Pedro Brage,
il y a Gonzalo Waddington. Enfin, il y a un casting en or. Et ce film est magnifique, vraiment. Il a eu beaucoup de prix d'ailleurs. Et ensuite, on terminera cette journée avec le soir, à 21h, le film de Marco Martins, qui n'est pas un petit réalisateur portugais encore, avec Beatriz Batarda en rôle principal, et encore Nuno Lopes d'ailleurs, qui s'appelle Un automne à Great Yarmouth, qui est un film aussi vraiment très bien, puis alors, très différent des autres. Celui-ci est très sombre, très dur. Il se passe en Angleterre, dans l'est de l'Angleterre, je crois. C'est des travailleurs portugais qui vont travailler là-bas, donc, et qui sont des ouvriers portugais qui vont travailler là-bas dans une usine qui découpe des dindes. Enfin, déjà, bon, il y a un décor posé qui est un peu...
Avec des conditions terribles.
Et puis surtout dans des conditions terribles. Ils vivent dans des espèces de taudis. Ils sont très mal nourris. Enfin, les conditions d'hygiène sont déplorables. Et voilà. Et puis Beatriz Batarda, elle a le rôle de celle qui est un peu au milieu de tout ça, entre les patrons anglais et les ouvriers portugais qu'elle fait venir et qu'elle accueille. Donc elle a un rôle extraordinaire. Je trouve qu'elle est fantastique là-dedans. Je serais très content parce qu'elle sera présente. Elle va présenter le film. Donc ça, c'est superbe. Et puis ce film, voilà, il est un peu... C'est un film très social. C'est un peu dans la veine de Ken Loach. Voilà. C'est un peu ce style de cinéma.
Oui.
Donc c'est, voilà, en fait,
mais c'est très social et on pourrait dire que... Ça se passe la même chose ici, aujourd'hui.
Mais exactement. Et puis, il y a toujours ces quatre films que je viens de citer, qui sont donc les quatre films, on va dire, de la sélection principale du festival. Ils sont très différents les uns des autres. Mais... Tous, je trouve, ont cette chose en commun qui leur raconte la société portugaise vraiment bien, je trouve, très bien. Même le film japonais, même le film Amasan, qui en fait, c'est un film portugais. Moi, je l'ai ressenti comme un film profondément portugais, même s'il se passe au Japon. Et donc, c'est l'intérêt de ce panel de quatre films qui représente, voilà, à mon sens, ce qui s'est fait de mieux un petit peu ces dernières années au Portugal. Voilà, ça c'est la première journée, le samedi 30.
Le samedi. Après dimanche, on en a parlé de la nuit du coup d'État, donc de Ginette Lavigne, et puis Capitaine Gabriel de Maria Madelch. Mais il y a aussi un troisième film qui s'appelle Les Grandes Sondes.
Tout à fait. Suite à ces deux films et au débat qui aura lieu à l'issue, il y aura le soir un film qui s'appelle Les Grandes Sondes, qui est un film... portugo-suisso-français, si je me souviens bien. C'est une coproduction avec les acteurs principaux. Les deux acteurs principaux sont français d'ailleurs, c'est Valérie Donzelli et Michel Villermoz. Il y a un acteur portugais, je suis désolé, j'ai oublié son nom.
Francisco Blanc.
Voilà, c'est ça, il est extraordinaire là-dedans. Et c'est en fait une comédie désopilante, vraiment très drôle, décalée, très originale, avec des dialogues percutants. Enfin, c'est vraiment très très bien écrit, c'est une superbe comédie. Moi ça a été un coup de cœur, ce film. Il a déjà quelques années, hein. Il est de 2013, donc il a plus de 10 ans. Mais c'est vraiment une comédie superbe qui se passe, en gros, c'est une équipe suisse de radio qui part au Portugal faire un reportage un peu quelconque sur des choses d'entraide entre la Suisse et le Portugal. Je crois qu'ils vont voir des horloges, enfin des choses que la Suisse a offert au Portugal. Et ils ont ce malheur ou cette chance, je dirais, de se trouver au Portugal le 24 avril 1974. Et la nuit du 24 et du 25, on sait bien ce qui s'est passé là-bas. Donc leur reportage, il va se retrouver complètement changé. Et on va partir dans une espèce de délire... Et comment dire, là c'est le 25 avril vu d'un autre angle un peu, c'est-à-dire l'angle, on va dire, un peu euphorique avec la révolution sexuelle. Voilà, on est plus dans ce registre-là, un truc complètement fou qui vient de se passer, et c'est vraiment très très drôle, ce film.
En plus de ces sept films, de ces trois journées, il y a quelque chose qui se passe hors film.
Oui.
Alors, pour cela, on a Brian Diegues dit Glaçon.
C'est ça.
Qui, lui, il va nous parler donc de cette exposition. En plus de cela, aussi, il y aura Madeleine Pereira qui travaille à Angoulême, mais qui sera là pour nous présenter sa BD Barboulette à papillon.
Exactement, il y aura une dédicace même.
Des éditions Sarbacane. Alors, Glaçon.
Oui, je suis là.
Votre histoire.
Mon histoire, elle est très simple. je sais même pas par quoi commencer en fait. Mais depuis quelques années, je donne de mon temps pour peindre des murs, sans forcément avoir l'autorisation des propriétaires des murs. Mais voilà, je fais du graffiti et je peins.
Tu m'as pas dit ça.
C'est pas vrai. C'est pas grand. en fait, je viens pour présenter un film. non, je plaisante. Je serai donc présent sur le festival, justement pour exposer quelques toiles.
Combien ?
Alors, je pars sur une quinzaine. Pour l'instant, il y en a 10 sûres. Après, vais-je réussir à atteindre la quinzaine ? J'aimerais bien. Il faut savoir qu'en fait, toutes les toiles vont avoir un lien direct avec le 25 avril. Vous n'êtes pas censé savoir qu'on est en 2024. Et on est en 2024.
Les 50 ans de la révolution des œillets portugais.
Exactement. On est en 2024 et donc c'est le cinquantenaire de notre chère révolution des œillets. Et c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu le fil rouge en fait, de ce festival proposé par Wilson. C'est que déjà le dernier jour, le dimanche, on va avoir des films qui tournent autour de la révolution des œillets. Et en fait, du vendredi donc, au dimanche, mes toiles seront exposées dans le cinéma du Club de l'Étoile. Et ces toiles-là ont tout un lien direct avec la Révolution. Donc ça peut être très bien le portrait d'un capitaine ou alors le portrait voilà, de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais il va y avoir essentiellement des portraits. Et chaque toile font donc faire écho à la Révolution des œillets.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, rassurez-moi, Brian Diegue, je dis glaçon, vous n'allez pas repeindre les murs la salle du cinéma.
ne vous en faites pas, même si on me l'avait proposé, j'aurais sûrement refusé, parce que le cinéma est si beau, il est tellement beau que j'aurais peur de l'abîmer. C'est un cinéma centenaire, un cinéma qui a vu un grand nombre de personnes y rentrer. J'aurais eu honte de l'abîmer. Donc non, je n'abîmerai pas le cinéma, je vais juste proposer donc quelques toiles qui seront affichées en fait au premier étage. Voilà, c'est un cinéma avec un balcon en fait, un peu comme tu disais Wilson à l'italienne. Donc on a une partie au-dessus et cette partie-là elle va être... c'est celle qui m'est proposée.
Dans laquelle vous allez exposer vos 10 voire 15 tableaux. Voilà,
10 certainement et j'espère un peu plus. Donc oui, ça va se passer... sur les 3 jours et rien ne sera abîmé. Voilà.
Et quelle est la technique que vous utilisez ? Parce qu'un graffeur ou dessinateur comme votre travail, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites vous prenez une bombe et pchit, vous graffez, vous faites des...
Alors,
pochoir, vous utilisez le pinceau ou les pinceaux?
J'utilise tout type de technique. Moi, depuis petit, enfin depuis petit, non, n'importe quoi. c'est pas vrai. Depuis 10 ans, j'utilise la technique du pochoir essentiellement. Donc le pochoir, on va dire que c'est la base de toutes mes créations. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que du pochoir, sinon n'importe qui pourrait prendre mon pochoir et refaire.
Reproduire, oui.
Alors que c'est pas du tout en fait ce que je fais. Donc il va y avoir évidemment un travail à main levée. Il va y avoir du pinceau parfois, il va y avoir donc oui du pochoir et il peut y avoir aussi d'autres ajouts. Voilà, parfois j'aime bien le relief, donc je peux aussi utiliser la technique du collage. Donc il y a en fait tout type de techniques qui peuvent être utilisées. Ça peut se faire tantôt sur un mur en extérieur, tantôt sur une toile ou alors sur n'importe quel support. En fait le support n'importe peu. On peut très bien peindre une table, on peut très bien peindre une canette, on peut très bien peindre une bombe de peinture vide. Donc je vais d'ailleurs en ramener pendant le festival. Donc le support importe peu. Par contre, c'est vrai que quand on pense graffiti, on pense au mur. Et donc c'est vrai que c'est là, en fait, que je m'exprime le mieux. Et c'est ce que je préfère faire, peindre des murs en extérieur. Et moi, je peins en journée parce que la nuit, c'est pas terrible, on voit pas très bien. Donc voilà, moi, j'aime bien m'exprimer en journée et sur des murs.
Et comment tu conçois tes dessins ?
Alors, Il y a forcément un élément déclencheur. Il peut y avoir un événement. Il peut y avoir, par exemple, l'envie de rendre hommage à quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un. Il peut y avoir, techniquement, l'événement, c'est le 25 avril, ou plutôt le cinquantenaire de la Révolution. Donc, il y a forcément un élément déclencheur qui me motive à peindre sur tel ou tel thème. Ensuite, je vais travailler ça chez moi, dans mon atelier. Moi, j'habite dans l'Essonne. Donc, dans le 91, j'ai un super atelier. Et c'est là que je vais travailler, mon pochoir si besoin. Et une fois tout le matériel prêt, disponible, acheté, je me déplace sur le mur préalablement choisi. Et c'est là que je peins. Ça peut prendre une heure, ça peut prendre une après-midi, ça peut prendre deux jours. Ça dépend de la taille de la peinture. Mais il y a tout un travail en amont qui est extrêmement important et minutieux. Voilà. Mais ça, c'est la partie, caché, la partie qu'on ne voit pas. Mais c'est un travail très, 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 très compliqué, mais passionnant finalement. Et il faut s'armer de patience pour faire ce genre de travail.
Et oui, et puis moi, je suis toujours, parce que je vous ai vu à la place du Théâtre de la Ville.
Oui.
Je ne sais plus quel jour c'était, mais vous faisiez un dessin pour fêter les fameux 50 ans de la Révolution des œillets. Et c'était un fameux calendrier de l'Avent ?
Tout à fait. Alors, cette peinture, c'est vrai qu'on s'était croisés, elle n'était pas dans le calendrier de l'Avent. C'était une activité qui avait été faite à la demande du Théâtre de la Ville, justement, par le directeur Emmanuel de Marcy-Motta. Par son initiative, on a fait une super activité en plein air, une après-midi, mi-avril. La date, je ne l'ai plus, je dirais le 11 avril.
J'ai plus la date.
J'ai plus la date non plus, mais c'était vraiment mi-avril, il faisait beau, c'était super, et c'était une activité participative où ceux et celles qui passaient par là pouvaient s'initier à la technique du pochoir et au graffiti, sur toile, je précise, sur toile. Mais le calendrier de l'Avent, oui, il a existé. Alors j'ai souhaité créer un petit événement à mon échelle pour rendre hommage à la culture portugaise et pour ne pas oublier le 25 avril. Par le biais d'Instagram et des réseaux sociaux, j'ai souhaité peindre une œuvre qui se veut éphémère, donc la plupart n'existent plus, mais une œuvre par jour pendant 24 jours, du 1er avril au 24 avril. Un peu à l'image du calendrier de l'Avent, où les enfants patientent avant Noël avec des chocolats.
Nous, on patientait pour voir les œuvres des glaçons.
C'est ça. En fait, chaque chocolat, c'était une peinture colorée. J'ai donc commencé le 1er avril avec Salgueiro Rumai. J'ai ensuite enchaîné avec Maria de Medeiros, qui est la marraine de notre festival. Elle était donc évidemment représentée le deuxième jour. Et puis donc du 1er au 24 avril, un visage a vu le jour dans Paris.
Différent chaque jour.
Portrait était différent. Ça veut dire que c'était pas uniquement sur la Révolution. Il y avait des portraits de personnes mortes le 25 avril 1974, par exemple. Je pense à Eça de Queiroz, qui lui est mort en 1900. Magalhães, Magellan, qui lui est mort en 1521, ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas uniquement la Révolution, mais c'était la culture portugaise en général. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai ramené un petit cadeau. Je sais qu'on est à la radio et qu'on ne voit pas ce qui se passe en plateau, mais je vous ai ramené la peinture du 20 avril, qui est, attention, à Maria Rodrigues.
Ah!
Voilà, c'est pour vous.
C'est super.
C'est un petit cadeau.
Merci beaucoup. Merci.
De rien. Merci, je ne viens pas les mains vides.
Je voulais... Parce que le temps, il passe. Et l'émission touche presque à sa fin.
Et oui.
Quels sont vos prochains projets ?
Moi, mon projet principal, c'est le festival Hola Paris.
Voilà.
C'est mon projet.
Alors, on va parler de ce festival.
Je
consacre... Le festival, il commence le 29 novembre et finit le 1er décembre au Club de l'Étoile. À Paris. Il s'appelle Hola Paris. Où est-ce qu'on peut trouver les places?
Justement,
comment on peut.
Justement, j'allais vous en parler. Sur le site du Club de l'Étoile, on trouve la billetterie avec plusieurs catégories de places. On peut acheter une place à l'unité, on peut acheter deux séances, on peut acheter à la journée, on peut acheter pour tout si on veut. Donc vous trouverez tout sur la billetterie, sur le site du Club de l'Étoile pour la billetterie. On peut acheter les billets dès maintenant. Tout est ouvert.
Mais super.
Et le Club de l'Étoile, je voudrais terminer
en
disant ça. Bah, il est juste à côté de l'Arc de Triomphe, rue Troyon. Il est à une minute à pied de l'Arc de Triomphe, donc dans un endroit un peu prestigieux. Et ils sont très, 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 très contents aussi de présenter le Festival de cinéma portugais.
Alors, n'oublions pas les réseaux sociaux.
Oui,
parce que les réseaux sociaux, c'est...
C'est comme ça que je t'ai connu, d'ailleurs. C'est,
bah, déjà. Et puis, c'est l'un des meilleurs moyens de communication aujourd'hui. Donc, n'oublions pas le compte Instagram, Festival Hola Paris. Voilà, il y a des tirets, mais il faut y aller. Mais il n'y a pas que Instagram, il y a aussi Facebook pour ceux et celles qui veulent. Et on peut se renseigner sur les horaires, on peut se renseigner sur les prix, on peut se renseigner sur les places. Et puis, surtout, on peut se renseigner sur les films. C'est ça qui importe, c'est ça qui compte. Donc, il y a des posts qui sont à titre promotionnel. Donc, on va voir les affiches, on va voir peut-être deux, trois bandes annonces. Mais voilà, allez sur les réseaux sociaux, Festival Hola Paris, ça se passe sur Instagram et sur Facebook.
Voilà, et puis dans les jours qui viennent, il va y avoir des posts sur les invités qui vont arriver parce qu'on a quand même du très beau monde. J'ai oublié juste, j'en profite, je termine pour dire que pour le film de Tiago Guedes, il y aura bien sûr Tiago Guedes, le réalisateur, je ne l'ai pas dit, Isabelle Abreu, actrice du film, et Alban Geron, que je n'avais pas mentionné ces trois-là, donc je tiens à le dire, voilà.
Bon, mais je vous remercie tous les deux d'être ici avec moi aujourd'hui sur Lusitania, sur Aligre FM. Et puis, moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs samedi prochain de 18h à 19h. Et on part en musique avec Fabien Ribourdon, Delicadeza, extrait de son album Ponta Choltas. Merci à vous deux. Au revoir
merci
à
beaucoup.
Tous et bon week-end.
De rien, merci beaucoup.
Et un grand merci à notre technicien aussi. Donc,
merci les gars.
À samedi prochain. Au revoir.
Parecem algodão, caem do céu como um véu de paixão. São bênçãos e perdões, farol ao pôr do sol. Está guerra que diz o sentimento de afetos febris.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.